Les passions de Camille avec Camille Chai.
Mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ici Camille Chai, votre animatrice. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Joannie Caillé-Blais. Elle vit avec l'ataxie de Friedreich depuis l'âge de 21 ans. Mais je vous dirais que ce qu'il y a surtout à retenir, c'est qu'elle a utilisé ce diagnostic comme carburant pour vivre ses rêves. Elle est là avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Et je recevrai aussi Maude Massicotte qui vit avec une paralysie cérébrale. Elle s'implique dans différents projets et causes, mais surtout elle contribue activement pour que les personnes en situation de handicap deviennent des personnes à part entière. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, c'est tout de suite à Les Passions de Camille. Sans plus tarder, je reçois ma première invitée qui a 29 ans. Elle est native de Saint-Rédempteur, mais elle habite en ce moment à Saint-Apollinaire, toujours près de la ville de Québec. Joannie Caillé-Blais, bonjour.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ça va super bien.
Joannie, c'est original parce que tu loues la maison de tes grands-parents.
Oui, oui, à Saint-Apollinaire.
C'est beau, c'est rare en fait qu'on entende ça. C'est génial en fait de rester dans la maison de ses grands-parents.
Oui, dans le fond, on est vraiment une famille unie. Fait que comme mes grands-parents sont décédés, ça a été la maison dans la famille. Fait que puis maintenant, c'est moi qui habite dedans.
Magnifique. Génial. Donc, Joannie, je disais donc en début d'émission que tu vis avec l'ataxie de Friedreich. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas du tout, ou presque pas en tout cas.
Non, c'est vraiment peu connu. C'est dans le fond, c'est une maladie génétique. C'est dégénérative. Ça s'attaque beaucoup au système nerveux, fait que beaucoup l'équilibre puis la coordination aussi.
D'accord.
Ouais. Puis ça peut être c'est héréditaire, mais dans ma famille, il n'y en a pas de connu dans le fond, fait que ça a sauté quelques générations.
Mm-hmm. Donc, ça peut venir de très loin.
Oui, oui. Enfin, il faut que tes deux parents aient le gène, dans le fond, atteint.
Mm-hmm.
Pour te donner le gène atteint, ta mère te donne le gène atteint, ton père te donne le gène atteint, ce que ça fait que tu as l'ataxie.
Et dans un cas où, toi, est-ce que tu as des frères et sœurs?
Moi, j'ai un frère plus vieux de 5 ans, puis il est pas atteint non plus.
OK. Donc, c'est encore une fois, quand on dit que c'est les mystères ou le hasard de la vie, est-ce que c'est comme ça que tu le vois?
Ah oui, ben on peut voir ça ou pogner le jackpot, on ne sait pas. C'est marrant.
Oui, effectivement, c'est rare, mais on se doute très bien que malgré tout ça, ben, en fait, si on commence par le début, quand tu as appris que quand tu as été diagnostiquée avec l'ataxie de Friedreich, c'était à tes 21 ans, sachant que tu en as 29 aujourd'hui, ça a quand même été un choc à ce moment-là.
Oui, c'est sûr. Surtout, je finissais mon cégep, j'étais en dernière année de cégep, fait que tous les examens finaux ont passé par l'acceptation aussi de cette maladie-là. Fait que j'ai passé mon cégep sur la fesse, mm-hmm. comme on dit.
Mm-hmm.
Mais après ça, j'ai pris ça pour me réveiller un peu, puis j'étais allée voyager, dans le fond, pour un petit peu contrer les effets négatifs, là.
OK, wow! Ah ben, là, déjà, tu nous ouvres une porte sur un autre monde qui est génial, qui est le voyage. On y revient, ça, c'est sûr. Mais je suis curieuse de savoir quelles études est-ce que tu faisais à ce moment-là?
Moi, j'étais graphiste à Rivière-du-Loup. Ben, je faisais des études en graphisme.
D'accord. Ouais. Et à quel point, ce diagnostic a eu un impact sur tes études?
C'est sûr, tu sais, vu la fin des études, ben c'était des gros examens finaux pour recevoir le diplôme.
Mm-hmm.
Fait que j'avais pas vraiment la tête à ça.
Oui.
J'en ai parlé beaucoup à la directrice du programme. Puis on a trouvé une solution ensemble pour que je puisse recevoir mon diplôme comme les autres.
Bravo, franchement, c'est beau parce que ça nous montre déjà en fait l'importance de ta propre démarche, d'être allé en parler justement à la directrice. Ça nous démontre, hein, quand on dit toujours, la communication et le fait de parler, c'est très important. Toi, tu avais des besoins précis et c'est rassurant en fait de voir que ben, les gens, ils sont là. On est souvent bien entouré, hein, mais on n'est pas nécessairement toujours conscient. Mais c'est beau, c'est une belle leçon, mais franchement, bravo à toi d'avoir réussi à terminer ton deck, sachant ce que tu vivais à ce moment-là. Et bon, je pose beaucoup de questions techniques, parce que c'est vrai que ça nous rend curieux par rapport à toi. Quels ont été tes premiers symptômes? Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent chez toi?
J'étais beaucoup sportive. Le soccer prenait une très grande place dans ma vie. Puis je commençais à trouver que mes dribbles, les jeux de pied, ils n'étaient pas parfaitement comme que je le voulais. Fait que là, ça m'a fait une petite interrogation. Après ça, il y a eu aussi, quand je descendais les escaliers.
OK.
Comme vers la fin, je perdais un petit peu l'équilibre. Pourtant, des escaliers, ça peut être anodin, mais c'était pas mal ça, mes premiers symptômes, là, les escaliers, mes dribbles, la course.
Donc, heureusement, en fait, que ben, d'une certaine façon, le fait que tu étais active, tu as pu t'en rendre compte rapidement, mais à l'inverse, est-ce que, en général, est-ce que tu sais, ça se manifeste à partir de quel âge? Est-ce qu'on a réussi à déceler cette information-là?
C'est tellement cas par cas. Tu sais, moi, ça a été à 21 ans, j'ai été diagnostiquée. Je suis capable encore de marcher, mais il y en a qu'à l'âge de 9 ans, sont en chaise roulante ou. À 50 ans, ils peuvent encore marcher. Hein. C'est vraiment cas par cas.
Donc, toi, tu n'es pas en fauteuil roulant. Est-ce que tu dois utiliser certains outils pour t'aider à fonctionner au quotidien?
Oui, j'utilise un bâton de marche. Des fois, deux, dépendamment le terrain. Si c'est bossu, mettons, ou de l'asphalte. Hein.
Mm-hmm. Donc, un bâton, puis j'imagine que chez toi, bon, ça ne doit pas être nécessaire.
Non, dans la maison, j'en prends pas.
Et est-ce que tu conduis malgré tout?
Oui, j'ai mon véhicule à moi.
Est-ce qu'il est adapté d'une certaine façon ou il n'y a pas de besoin?
Pas présentement, non.
Et j'imagine que c'est une voiture automatique ou tu as même le luxe de pouvoir conduire une voiture manuelle?
La mienne est automatique. Mon copain, il a une manuelle, fait que des fois, je m'essaye d'un rang, là.
Quand il n'y a pas beaucoup de personnes.
Nous, c'est en plein ça.
Oui, c'est ça. Après, le... Non, c'est ça. Mais, et là, ben, tu me parles de ton copain. Lui, vous êtes en couple depuis combien de temps?
C'est quand même tout nouveau. Ça fait à peu près un an et demi.
Oh, quand même, c'est récent.
Oui.
Comment vous vous êtes rencontrés?
On se connaît depuis le secondaire.
Oh, quand même.
Oui, puis ça a été... On s'est retrouvés aux retrouvailles.
Ah, ça, c'est toi, c'est un point positif, hein, ces fameuses retrouvailles.
Oui. Les retrouvailles de 10 ans du secondaire, dans le fond.
Wow!
Ouais.
Et moi, tu sais, Joannie, je suis curieuse. J'aime bien, justement, quand les gens nous parlent de leur histoire d'amour, le fait que toi, tu aies une différence. Comment ça s'est passé entre toi et lui?
Dans le fond, ça s'est super bien passé. Il était vraiment ouvert. J'ai rien caché du début. Dans le fond, on parlait, puis il voyait aussi que dans ma démarche, il y avait quelque chose. Fait qu'il me posait des questions, puis j'étais vraiment un livre ouvert, puis il m'a accepté comme je suis.
C'est beau. C'est encore une belle leçon, j'allais dire, d'humilité, mais même pas, c'est une leçon humaine et d'amour.
Ah oui, oui.
Et sachant que, bon, lui, en histoire d'amour, c'est une chose, il t'a complètement accepté. comment tu vis avec le regard des autres? Parce que les gens, j'imagine qu'on le voit un petit peu dans ta démarche.
Oui, ça c'est sûr que c'est un cheminement à faire un petit peu. Le regard des autres, mais on peut toujours se dire que c'est parce qu'ils me trouvent belle
Eh
qu'ils
bien,
me
oui.
regardent.
Très vrai.
Pas nécessairement parce que je suis différente ou
J'adore ta réponse, Joanie. Mais c'est quand même un. Si je te demande, hein, est-ce qu'il y a des malaises ou des moments où ça te fait vivre un petit peu quelque chose, justement, en lien avec le regard des autres? Comment tu fais, toi, quand tu vois que les gens, bon, évidemment, t'observent, te regardent, mais j'imagine que des personnes viennent te poser des questions aussi?
C'est très rare, mais quand il y en a qui viennent, je suis vraiment ouverte à les instruire sur une maladie vraiment pas connue.
Ah, c'est ça, oui.
Fait que c'est sûr qu'on a des questions par rapport à ce qu'on sait pas. Fait que je suis vraiment prête à instruire le monde, là.
Et parlant encore de ton copain, sachant que tu as 29 ans, est-ce que l'idée d'avoir un enfant, c'est un projet que vous avez ensemble?
C'est peut-être, oui, c'est dans les projets peut-être, mais tu sais, c'est pas fondé, mais la porte est ouverte.
Et là, comme je te dis, hein, je suis peut-être intrusive avec mes questions, mais en même temps, on est là pour ça. Le lien que tu me dis donc avec ta maladie qui est dégénérative, est-ce qu'elle aurait un impact nécessairement sur bon, l'enfant que vous auriez ou pas, peut-être pas?
Ben, par rapport à moi, c'est sûr que je me vois comme mon Dieu, ça va être gros, ça va demander, mais je vois d'autres personnes en fauteuil roulant qui ont déjà eu des enfants, fait que je me dis pourquoi pas moi.
Effectivement, oui. Bon, ben écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. C'est une chanson que tu as choisie. On en parle tout de suite après.
Hey, my baby, well, ain't that nice? We'll turn our lifestyle into a paradise. Living on the beach and eating fish every day. And sipping from the fruit from the juice that she made. And she love me now, well, why wouldn't she? Love my baby and my baby love me. Love me now, because I'm young and able. Well, love me, cause what I bring will to the table. And she on the top and I'm well on the low. Wanna take her anywhere that she will wanna go. But let me know if I cross the line. I say, taking it slow is just a waste of our time. And she love me now. Well, why wouldn't she love my baby and my baby love me? And she love me now because I'm young and able. She love me cause what I bring will to the table. Well, thank you, man, I do adore. But this ain't the first time I've been here before. And getting easier with every task. Well, not the first time and it won't be the last thing. Well, thank you, man, I put you done. Well, I know now where I'm going, cause I found just where I'm from. And getting easier with every task. And not the first time, and it won't be the last. Well, everybody wants a piece of the pie. But it's easier now, well, if you justify. Well, you're home and where you make it where you live. You don't get what you want and you don't get what you give. And coffee in the morning is what she will make it. In the afternoon, you know we're feeling the break. You know we're feeling the break, you know we're feeling the break. You don't get what you want, but you can get what you take. And she love me now. Why wouldn't she love my baby and my baby love me? And she love me now because I'm young and able. She love me cause what I bring will to the table. And thank you, man, I do know. But this ain't the first time when I've been here before. And getting easier with every task.
We're not the first time and it won't be the last. But thank you, man, for what you've done. But I know now where I'm going, cause I found just where I'm from. And getting easier with every task. But not the first time and it won't be the last time.
C'était la chanson « Young and Able » de Current Swell. Joannie, pourquoi tu as choisi cette chanson?
Je l'ai connue en voyage. Fait que c'est certain que ça me rappelle cette facette de ma vie, mais au-delà de ça, il y a plusieurs paroles qui me rejoignent. Fait que ils disent à un moment donné qu'ils vont tourner leur mode de vie en paradis puis bâtir leur maison là où ils se sentent bien. Puis ils savent maintenant où ils vont parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ça, je trouve que ça me représente un peu dire on est tous capables de trouver notre confort, peu importe où ce qu'on est. Puis on est tous jeunes et capables de faire des choses extraordinaires. Il suffit juste d'y croire. Puis lorsque je dis jeune, c'est pas de l'âge que je veux parler, bien sûr. Hein?
Mm-hmm. C'est dans la tête et dans le cœur.
Ah oui.
C'est très beau. Dans quel voyage que tu as découvert cette chanson?
Je l'ai découvert en allant dans l'Ouest canadien, mm-hmm. cueillir des cerises dans la vallée de Kanagan.
Wow! Est-ce que ça a été une belle expérience pour toi?
Ah oui, ça a été mon premier voyage de... Ça a ouvert la porte à plusieurs autres.
Et là, sachant ce voyage-là, tu l'as fait juste avant de recevoir ton diagnostic. Mais quand tu dis oui. justement d'ouvrir la porte, est-ce que ton diagnostic a été un élément déclencheur dans ton envie et même ta passion de voyager, de découvrir encore plus le monde?
Oh oui, oui, oui. Dans le fond, quand j'ai fini mon cégep, je me suis dit qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Mm-hmm. Puis avec le voyage que j'avais fait l'été avant ça, ça, j'ai décidé de partir avec mon sac à dos pour aller visiter d'autres coins de pays.
Et donc, où est-ce que tu es allée? Parce que tu t'es vraiment pas arrêtée à l'Ouest canadien.
Non, j'ai fait l'Europe, la France, la Suisse, l'Italie, la Corse, l'Espagne. Après ça, je suis allée en Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie, le Pérou, l'Honduras.
Oh là là, tu nous en mets plein les oreilles, mais plein les yeux aussi, j'ai envie de dire. Ça t'a pris combien de temps pour faire tous ces voyages?
J'ai fait des... Je suis partie, je suis revenue. Mais ça a été genre entre un mois et 6 mois.
À chaque fois?
À chaque fois.
Oh, wow! Donc, tu prenais vraiment le temps d'en profiter à 100%.
Ah oui, je me déposais à chaque place pour sentir tout ce que la place pouvait m'apporter.
Mais ce qui est impressionnant, c'est que la plupart du temps, tu voyageais seule.
Oui.
Ça te faisait...
Avec
ton sac?
Mon sac à dos, oui.
Donc, ton sac à dos était un peu comme ton compagnon de route.
Ma maison, oui.
C'est très beau. Et je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. On dirait, je veux dire, tu n'as pas froid aux yeux d'oser partir en voyage seule et quand même avec un handicap, avec une différence. Est-ce que ça t'a amené à vivre des moments ou des expériences uniques?
Oui, Oui, c'est sûr. Surtout en Europe, dans le fond, je venais de l'apprendre quasiment. Puis j'étais pas capable d'en parler avec mon entourage ici. Fait que j'en parlais beaucoup en Europe. Je me disais que c'était pas grave si je dérangeais le monde. Tu sais, ils me reverront plus jamais de leur vie. Fait que c'est ça, j'extériorisais ce que j'avais à dire aussi là-bas avec le monde, là.
Et là, tu dis que jamais ils ne te reverront, mais est-ce que tu vas malgré tout garder un contact avec ces personnes?
Certains, oui, c'est sûr. Oui, je leur parle encore des fois. Ben, quand on pouvait, ils venaient des fois ici,
Ah
puis
oui?
on se retrouvait ici, puis ouais.
Wow, donc ça a été vraiment, tu t'es lié d'amitié avec des personnes à travers le monde qui ont même fait le pas de venir te voir chez toi aussi après.
Oui.
Wow. Est-ce que tu serais en mesure de nous dire est-ce que tu as un voyage préféré ou un endroit préféré? Est-ce que c'est une question facile ou difficile que je te pose en ce moment?
C'est très difficile parce que c'est tellement différent à chaque place, mais j'ai bien aimé l'Indonésie. Je sais pas si c'est sûrement aussi à cause de la vibe qu'il y avait là-bas, mais aussi avec les personnes que j'étais. Je me suis liée d'amitié vraiment c'est serré avec eux. C'est que peut-être à cause beaucoup des gens qu'il y avait là-bas.
Qu'est-ce qui t'inspirait ces personnes? Parce que tu parles de la vibe, de l'ambiance, des personnes. Comment c'est quand tu te rappelles tes souvenirs de toi, tes sensations là-bas, c'est tu te sentais comment?
Accepté.
Ah oui, hein?
Ah oui. Oui, c'était. Je parlais ouvertement, sans jugement, puis il était beaucoup tourné vers la méditation aussi, fait que ça me rejoignait. Fait que on dirait que j'apprenais beaucoup d'eux autres, puis je pense que je leur apportais beaucoup. Il y en a même un qui a changé de carrière pour devenir physio après.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais.
C'est trop beau. Mais en fait, ce qui me frappe, c'est que ça nous démontre à quel point, oui, quand tu nous dis que tu as développé des liens forts avec eux, tes exemples, c'est vrai, je veux dire, quelqu'un qui change carrément de carrière, c'est que, oui, tu es dû aller le toucher quelque part en cette personne. Mais est-ce que c'était des Indonésiens ou des touristes qui étaient sur place dont tu nous parles?
Il y avait beaucoup de Brésiliens.
OK.
Il y avait un Danois. Puis il y avait un Indonésien, mais lui, j'ai malheureusement perdu contact avec, là. Mais j'ai gardé beaucoup de contact avec les Brésiliens puis le Danois.
Génial. Et tu nous parles de méditation. J'attrape ce sujet comme la balle au bon. Est-ce que toi, tu la pratiques, la méditation, dans ta vie au quotidien?
Oui, au quotidien, j'essaie beaucoup. Mais oui, c'est quoi qui m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de calme, de clarté d'esprit aussi.
Et quand on parle de méditation, c'est très, je veux dire, c'est très complémentaire avec le yoga qui est une de tes passions, qui est très importante et qui prend même beaucoup de place en ce moment pour toi.
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Je suis en train de faire une formation pour devenir professeur de yoga. Puis
Wow.
en collaboration avec Espace Om Shanti, je vais donner un cours dans le fond qui va commencer en mai.
Donc très bien, oui, c'est très bientôt.
Oui.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les cours de yoga donc que tu vas donner en ligne, est-ce que c'est pour tout le monde, donc des personnes qui vivent avec des limitations et d'autres qui n'ont pas de limitations aussi?
Oui, dans le fond, je vais donner un cours sur chaise.
Très bien.
Fait que tout le monde peut le faire, même si on n'a pas de limitation physique. Mais je vais faire des postures, admettons, pour que tout le monde trouve son compte.
Et là, si par exemple, moi, si, ben, en fait, moi, mais pour tout le monde qui nous écoute, si tu avais un exemple d'un exercice très simple à nous donner justement quand on est au travail, hein, au bureau, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de façon très discrète, que ce soit au niveau de la respiration ou de la posture?
Ben oui, dans le fond, la respiration, moi j'aime bien ce temps-ci, la respiration alternée. On prend le pouce droit, puis on le met sur la narine droite, puis on respire seulement de la narine gauche pendant à peu près une minute. Puis après ça, on inverse ça va être l'ongle sur la narine gauche, puis on va respirer une minute. Puis après ça, on relâche, puis on remarque les sensations dans notre corps, qu'est-ce que ça nous apporte. Dans le fond, moi ça m'apporte beaucoup de calme, de clarté d'esprit aussi. Je me sens plus posée, plus disposée à faire des gros choix quand on a un gros choix à faire. Hein.
Oui, ben c'est bien que tu nous lances sur cette piste parce que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Et ce que je vois, c'est que c'est complet parce que ça vient autant libérer et détendre le corps, mais même au niveau de la respiration, les émotions, l'état d'esprit, comme tu dis, on est plus zen. Donc c'est... merci en fait, j'ai envie de dire, Joannie, de nous rappeler l'importance de, un, prendre soin de nous. Ton petit exercice sur la respiration, je vais le garder en tête parce que c'est une chose qui est très simple et facile à faire. Donc j'espère que ceux qui nous ont écoutés vont prendre ça en note aussi. Mais je te souhaite bonne chance parce que, comme tu nous as dit, tu vas donner ces cours-là très bientôt. Est-ce qu'il y a un endroit sur Internet où les gens qui nous écoutent pourraient aller voir pour peut-être s'inscrire à ton cours?
Dans le fond, le site web, c'est espaceomshanti.com. Dans la section yoga, il va tout avoir les informations.
Génial. Bien, c'est pris en note. Merci infiniment, Joannie Caillé-Blais, et au plaisir.
Merci beaucoup.
Restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Maud Massicotte. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille, je suis toujours avec vous et j'ai le plaisir de recevoir ma deuxième invitée qui s'appelle Maud Massicotte. Elle est aussi mon amie et comme je disais donc en début d'entrevue, elle est impliquée, quand je dis qu'elle est impliquée dans différents projets et causes, c'est loin d'être un mensonge, vous allez voir pourquoi. Elle est coordonnatrice pour le service de l'interaidance pour l'INEI-PSH, on va en reparler tout à l'heure. Elle est aussi agente de communication chez le ROSEF, qui est le regroupement des organismes spécialisés en emploi pour personnes handicapées, mais elle fait plein d'autres choses aussi. Maud Massicotte, bienvenue.
Allô, Camille.
Alors, Maud, on va pouvoir parler de ta vie professionnelle et de tous tes projets après, mais j'aimerais pour commencer que tu me parles évidemment de ton handicap.
Pour d'abord, j'ai la paralysie cérébrale, donc qui a affecté mes quatre membres, donc mes deux bras, mes deux jambes, principalement mes deux mains. Donc, j'ai aucune dextérité manuelle. Je peux pas prendre un bardeau sans avoir une paille. Du coup, vous donner des exemples concrets ou boutonner et semer. Donc, c'est vraiment des choses qui me manquent beaucoup de dextérité. J'ai appris avec mes 28 ans d'expérience de trouver des trucs aussi pour essayer de pouvoir pallier à ces difficultés-là, mais ça va demeurer que je vais toujours avoir besoin d'aide ponctuelle dans la journée également aussi. Et j'ai aussi un problème d'audition dû au manque de design aussi à la naissance.
Et justement, ton histoire, elle est vraiment particulière parce que, donc, tu nous dis que c'est à la naissance, tu as manqué d'air. C'est l'élément déclencheur principal, en fait, qui a causé ta paralysie cérébrale par la suite?
C'est plus le fait que l'accouchement s'est très mal déroulé. Donc, il était à terme de 9 mois. Mais vu que ma mère a commencé à avoir une accoucher de façon naturelle et ont vu que ça ne fonctionnait pas, donc ils ont trop tardé à faire une césarienne d'urgence. Donc, je suis un peu mort-née. Donc, ils m'ont dû me réanimer 2-3 fois. Donc, c'est un peu un petit miracle d'être ici aujourd'hui.
Oui, puis c'est tellement beau quand tu le dis. C'est touchant parce que c'est quand même toute une histoire. Ça doit être assez particulier de vivre ça pour ta mère et pour toi aussi. Puis là, je parle de ta mère. Je mets pas de côté ton père et toutes les autres personnes de ta famille, évidemment. Mais j'adore que tu dises un petit miracle de la vie parce que quand on voit tout ce que tu fais aujourd'hui, en fait, honnêtement, moi, tu m'impressionnes. De par tout ce que tu fais, tous les projets dans lesquels tu es impliqué, autant dans ta vie professionnelle que personnelle, tu es tout un bout de femme, comme on dit.
Merci.
Et donc, bon, alors, paralysie cérébrale, oui, ton audition est touchée. On l'entend aussi un peu, ton élocution.
Oui, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais ça fait partie de la paralysie cérébrale. Donc, c'est un trouble de langage parole dû au niveau des muscles. Qui c'est vraiment l'information se traite très bien au cerveau. C'est juste la façon de ressortir les mots qui peut être une vision imparfaite.
Et les gens, souvent, parce que je veux dire, c'est parfait, on en profite aussi pour que les gens en apprennent sur ça. Des fois, les gens ont tendance à mélanger toutes ces choses-là qu'ils vont voir avec même un petit peu une déficience intellectuelle. Hein. Juste parce que tu parles un petit peu différemment, les gens souvent ont tendance à penser que oui, tu peux avoir une déficience intellectuelle, alors que c'est complètement pas le cas.
Oui, effectivement, surtout que je ne suis pas en fauteuil roulant, donc c'est encore plus dur de dire qu'il y a une déficience motrice. Mmh. En plus, le problème d'audition, si je ne vois pas non plus, et en plus avec un trouble de langage parole, donc c'est sûr que les gens ont plus tendance à m'infantiliser aussi et à mettre tout de suite l'étiquette de personne qui a une déficience intellectuelle parce que je n'ai pas d'aide à la mobilité de façon visible.
Et pour ceux qui ne te voient pas, par exemple, parce que je connais un petit peu tes histoires et tes anecdotes, mais quand tu es au téléphone et que tu parles à des personnes qui ne te connaissent pas, ça crée des drôles de situations aussi des fois.
Oui, effectivement. c'est juste que c'est pas évident, surtout quand on m'est déjà arrivé de devoir commander une pizza, puis j'étais tout seul dans mon appartement et la personne en question me croyait pas que j'avais l'âge pour commander une pizza et tout. Donc elle m'a dit ben peux-tu me passer ta maman?
Oh là là!
Ma maman elle est pas là, elle dit tout seul dans l'appartement et je veux ma pizza. Donc effectivement, je l'ai eu ma pizza, mais ça a été un bras de combat. Mais sinon, il y a d'autres situations où il m'est arrivé des gens qui m'ont raccroché au nez parce qu'ils pensaient que j'étais saoule alors que j'ai eu ce problème d'élocution. Donc c'est sûr que j'ai quand même senti qu'il est quand même assez c'est pas minime mon handicap de problème d'élocution, mais quand même ça se voit, mais on arrive quand même à bien me comprendre. Donc c'est sûr que dans cette situation-là, c'est beaucoup plus un peu frustrant, mais à la fois drôle, parce que bon ben ça fait partie de moi.
Mais oui, puis c'est ça qui est beau parce que d'en rire, c'est très bien. C'est ton quotidien, puis bon oui, faut bien en rire, hein. C'est mieux ça que l'inverse. Puis en même temps, ben, pour sensibiliser les gens, voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui font partie de la vie. Mais quand tu dis que tu habites en appartement, tu nous disais tout à l'heure que tu as beau avoir développé plein de trucs en 28 ans de vie et d'expérience, mais tu as quand même besoin d'une aide au quotidien, d'un service à domicile. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, toi, l'endroit où tu vis, comment ça fonctionne?
J'habite dans un appartement, c'est vraiment avec des services à domicile. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, C'est considéré comme un HLM, des appartements adaptés. Le critère numéro un, c'est pour avoir un handicap physique aussi, puis de pouvoir être capable de vivre en communauté, donc de pouvoir de payer, d'être capable de payer tes comptes, de pouvoir aller faire tes rendez-vous ou tout, un peu de gérer ton quotidien. Mais eux, ils vont s'occuper de la partie plus aide à domicile, donc les repas, que ce soit la lessive, le ménage, et t'aider dans tes soins d'hygiène et autres également, selon le cas aussi.
Donc, tu as une certaine indépendance, une certaine liberté, autonomie, mais tout en recevant tous les services dont tu as besoin.
Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que la seule contrainte, et souvent les contraintes qu'on a, ben, c'est le fait qu'on a un horaire et on doit le respecter alors qu'on a des services. Donc, si on n'est pas là ou quoi que ce soit, ou on ne veut pas le service, donc on doit attendre au lendemain pour le prochain service. Donc, ça dépend de l'horaire. Donc, pour moi, j'ai un horaire d'un bloc de 15 minutes le matin, puis un autre bloc de 20 à 30 minutes le soir, dépendamment au niveau du temps de la douche ou autre.
Eh bien, oui, puis tu parles de la douche, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vient pour t'aider à prendre ta douche, à préparer tes repas, à t'habiller. Donc, c'est quand même, c'est pas rien.
Oui, c'est ça. Puis en plus, je peux passer entre 6 à 8 personnes différentes par semaine. Donc, c'est quand même, je me trouve très chanceuse parce que si on regarde dans des centres d'hébergement ou dans d'autres endroits qui font affaire avec des agences, donc c'est plus, souvent c'est jamais les mêmes, donc on doit recommencer à chaque fois l'explication de c'est quoi nos besoins et autres.
Oui, puis c'est des personnes
c'est pas évident, mais oui, ça c'est fait ça. Partie de la game.
Oui, puis c'est des personnes qui ne veulent pas rentrer dans ton intimité.
Oui.
Carrément.
C'est vraiment le premier constat à faire quand tu es en situation de handicap, tu décides que tu vas avoir besoin d'aide toute ta vie, de recours d'une personne aide physique, de vraiment laisser tomber un peu la barrière de vouloir que ça soit toujours la même personne et quoi que ce soit, c'est que ça t'oblige à travailler ta communication puis aussi à repenser le côté l'intimité.
Complètement. Mais en même temps, ça forge un caractère, non?
Ça prend un caractère assez fort, mais aussi avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de compréhension.
Oui.
Donc, j'ai arrivé toutes sortes de pépins. Je disais, bon, ben, que c'est aujourd'hui, demain, ça va être d'autres choses. Voilà.
Et avant d'aller à la pause musicale, j'aimerais que tu nous racontes une magnifique anecdote qui décrit encore une fois la belle personne que tu es de par le discours que tu tiens sur la vie. L'anecdote, en fait, du premier jour où tu as commencé à marcher.
Oh, le premier jour que j'ai marché, c'est vraiment tout de suite à une opération que j'ai subie. J'avais 5 ans et demi et j'avais fait ma réadaptation et tout, même pas quelques mois. J'ai décidé un soir, j'étais en train d'écouter, je me souviens très bien, j'écoutais Radio Enfer, une émission jeunesse que j'adore et j'ai toujours aimé cette émission. Donc, c'était l'heure du bain parce que l'émission était finie. Donc, mes parents m'ont dit, bon, ben, il faut aller dans le bain, monde. Je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de me lever du divan comme je faisais des fois pour me tenir debout. Puis là, je sais pas ce qui est arrivé. Il y a eu comme un déclic où j'ai commencé à faire mes premiers pas. Donc, c'était aux alentours du 9 avril. Donc, on n'était pas loin de Pâques aussi. Donc, on a décidé de garder ça secret. Et quelques jours plus tard, maman m'a amenée voir mon physiatre pour que je puisse montrer qu'elle était capable de marcher. Donc, j'étais vraiment très émue. Et ça demandait où étaient les fils transparents qui me tenaient parce que c'était quand même assez laborieux dans la façon de marcher, mais je ne tombais pas, mais quand même, c'était mes premiers pas. Donc, c'était vraiment génial, c'était un très beau moment. Puis par la suite, il y a eu le week-end de Pâques, donc on a tenu ce secret pour la famille de mon père, puis ce qui est arrivé chez mes grands-parents, puis j'ai commencé à marcher dans le corridor, puis tout le monde était tellement ému. C'est une très belle histoire.
Ah oui, franchement, ça donne des frissons de t'entendre. C'est de toute beauté, hein? Ça nous prouve que quand on veut, on peut. T'es d'accord, Maude?
Oui, exactement. Faut mettre les yeux derrière à la bonne place.
Exactement. Donc, on va passer à la pause musicale et on se retrouve très, très vite.
Ma tête soliloque sous la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule ventriloque à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de gris et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de ma joue, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. J'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. Mais j'apprends à me tenir debout. Et puis une défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'âme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort. C'est dans le silence qu'une réponse. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Et j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. Mais j'apprends à me tenir debout. Et j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. Mais j'apprends à me tenir.
J'aurais sans doute deviné, mais cette chanson a pour titre « Tenir debout » de David Portelance. Maude Massicotte, tu as appris à tenir debout, mais tu veux aussi apprendre aux autres et aider les autres à apprendre à tenir debout, eux aussi, autant au sens propre qu'au sens figuré, de par tout ce que tu fais. Ça y est, on y est. J'ai envie de dire, on déballe la longue liste de tous les projets, pour toutes les causes pour lesquelles tu es impliquée. Par laquelle tu veux commencer, tiens?
Eh bien, il y en a beaucoup.
Oui.
sinon, celle qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment l'aspect d'accompagnement au loisir pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans. Donc, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai créé mon organisation de physique sans limite en 2015, justement pour répondre à un besoin qui n'était pas répondu par le gouvernement et aussi par d'autres organisations aussi. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, je suis pas toute seule à vivre cette injustice qui était de, après 18 ans, de plus recevoir des allocations pour avoir une accompagnatrice pour mes activités en dehors du domicile, notamment pour aller à la natation ou pour faire une sortie quelconque, que j'avais besoin de personnes pour m'aider, pour pallier à mes difficultés motrices. Donc, j'ai décidé de vouloir partir un organisme pour aider les jeunes de 18 à 30 ans s'ils sont au travail, s'ils sont en bénévolat ou encore aux études, mais qui n'ont pas nécessairement le goût d'aller dans des organisations où il y a des programmations déjà établies de 9 à 5, du lundi au vendredi, donc de s'adapter à leur horaire et aussi de faire des projets et des activités en fonction de leur goût et de leurs intérêts et que ça devienne comme un projet pour qu'ils puissent apprendre à s'organiser et à devenir de plus en plus autonomes.
Donc, le nom de ton organisme qui est DEFPHYS, donc Défis sans limite, est-ce que c'est pour défi physique ou déficience physique?
C'est pour déficience physique, parce que nous, on y va vraiment avec la déficience physique. Et on ne voulait pas trop avoir un mot, un nom très institutionnel ou médicalisant non plus. Mais on voulait quand même rester à qu'on dessert la déficience physique, principalement.
Et donc, ceux qui nous entendent et qui se disent « Oh là là, moi, je veux justement faire appel à ton organisme », où est-ce qu'ils peuvent aller sur Internet?
Et on a notre page Facebook « Déficit sans limite » et on a aussi notre site Internet « Déficit sans limite » également, .org, pour avoir toute l'information, voir tout ce qui est complet, puis prendre contact avec nous pour qu'on puisse voir si on peut répondre à vos besoins.
Très bien. Et si on passe donc à un deuxième organisme, par exemple le ROSEF dont j'ai parlé en te présentant, donc qui est le regroupement des organismes spécialisés en emploi pour les personnes handicapées, toi tu es agente de communication pour eux.
Oui, je travaille à temps partiel pour eux, donc ça fait déjà 2 ans que je travaille. Donc, je suis la première employée en situation de handicap d'avoir été embauchée. Je m'occupe de toutes les communications internes, externes, puis la page Facebook, la page aussi LinkedIn également, puis toutes les communications à travers nos membres, parce qu'on a 24 membres à travers la province du Québec qui dessert des personnes en situation de handicap pour les aider dans leur démarche en employabilité.
Parce qu'il faut se le dire, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui ont, oui, une facilité à trouver un emploi, c'est parfait. Mais quand on a une limitation fonctionnelle, dépendamment de ce qu'on choisit de faire, on peut avoir certains obstacles. Donc, vous êtes exactement pour aider ces personnes-là à aller au bout de leur démarche et surtout à trouver un emploi.
Ben exactement, nous on est là pour faire le pont avec les CEMO, les organismes communautaires en main d'œuvre pour les acheminer à eux, que eux, selon la région de la personne qui habite et le type de handicap, ils donc vont pouvoir prendre en charge cette personne-là pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour l'aider dans sa démarche d'employabilité, pour voir les subventions ou qu'est-ce qui peut être fait en fonction de ses besoins.
Très bien. Et donc, tu es aussi coordonnatrice pour le service d'inter-aidance pour l'INEI-PSH, qui est l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, donc c'est l'organisme, c'est quand même assez récent, c'est à peu près 2 ans, mais le service interrédance a été mis sur pied au mois de août dernier. On ne se le cachera pas, mais la crise sanitaire, la COVID-19 a touché beaucoup de personnes, donc ce service-là a été mis en place pour répondre à un besoin, donc pour les personnes en situation de handicap et leur qui ont des informations ou qui ont besoin juste de se faire écouter ou qui ont besoin de référencement. Donc, nous, on a une équipe de bénévoles pour répondre aux appels pour qu'on puisse les aider dans leur démarche, puis qu'ils puissent les aider aussi, que ce soit juste pour les écouter ou que ce soit pour avoir du référencement.
Et on sait à quel point le besoin d'être écouté, d'avoir une bonne écoute, et le besoin de parler aussi, hein, c'est quelque chose qui est très important, qui est vital. Encore une fois, ceux qui nous entendent et qui auraient besoin de ces services-là, je le répète encore une fois, hein, c'est l'INEI-PSH, donc l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. On vous invite à aller sur Internet aussi pour retrouver plus d'informations. Et Maud, je reviens sur ton organisme à toi, Défis sans limite. Tu as un appel à tous à faire.
Oui, effectivement, on travaille sur un gros projet depuis près d'un an et demi. Quand même, on est une gang de filles, de membres de l'organisme qui a décidé de créer pendant la fameuse période encore de pandémie, justement sur nos vécus, qu'est-ce qu'on on vit, que ce soit à travers notre vie professionnelle, notre vie personnelle ou notre handicap, toutes les réflexions qu'on a sur la vie et à l'égard de l'accessibilité universelle également, que l'accessibilité universelle a sa place dans la société où, à laquelle on vit. Donc, on a fait un recueil de témoignages qui va être lancé le 3 juin prochain, donc sur un site web. Et on vous invite à aller sur notre page Facebook Défis sans limite pour pouvoir justement voir l'événement qui va avoir lieu le 3 juin, qui va être un Facebook Live à 18h.
Magnifique. Donc, on prend tout ça en note. Et j'aimerais savoir, il nous reste, bon, seulement quelques minutes, mais tu parles évidemment des impacts de la pandémie. C'est quoi un peu pour toi le plus gros enjeu que la pandémie t'amène, toi, dans ton quotidien?
Le fait que, vu qu'on est dans, qu'il y a vite une ressource intermédiaire, donc il y a de plus de restrictions que tout citoyen qui vit dans un appartement normal, entre guillemets. Donc, même si j'habite tout seul, je n'ai pas le droit de recevoir une visite. Donc, je suis vraiment, je dois me débrouiller par moi-même. Donc, c'est sûr que quand on s'entend pas de visite, tu peux pas recevoir ton copain ou ta copine.
Mais non.
Donc,
parce que toi, tu es en couple?
Oui, effectivement. Ça va faire 3 ans au mois de juillet, d'ailleurs. Donc là, ça devenait contraignant. Si je pouvais sortir, moi, mais il fallait que je rentre chez moi tout de suite le soir. Donc, je ne pouvais pas passer quelques jours chez mon copain s'il revenait. Parce que si je le faisais, je dois faire une quarantaine de 7 à 14 jours selon les recommandations du CIUSSS.
Oui.
Donc, ça devient compliqué et complexe aussi avec le couvre-feu aussi. Donc,
oui.
On ne se le cachera pas. C'est encore plus compliqué. Donc, j'ai décidé temporairement de vivre sur mon copain. C'est quand même, je me trouve très chanceuse parce qu'elle peut me mobiliser. Je suis capable de pouvoir le faire, mais je pense à mes compatriotes,
mais oui.
Donc personnes qui ont des copines, des copains, et que la seule option, c'est de les voir dans leur appartement, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ça fait très dur de façon émotionnelle de ce côté-là.
Bon, ben écoute, on est tous de tout cœur avec toi et avec tout le monde, hein, qui vit ça, on sait très bien, bon, que ça amène plusieurs complications, mais on garde la tête haute, justement, on ne lâche pas. Pour terminer, Maud, sur une autre note, j'ai envie de te demander si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu choisirais?
Ça serait d'avoir une espèce de grosse machine où que je peux rentrer dedans, puis que j'ai juste à pitonner, que j'ai besoin de me faire raser les sous-bras, les jambes, puis de me faire habiller, coiffer, maquiller. Puis dès que je sors de là, tout est beau, tout est fait. Donc, ça serait génial.
Ben, merci pour cette idée. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui se disent « Ah ouais, ça serait pas mal si on avait ça nous aussi. » Tu m'avais parlé aussi de téléportation, donc en lien pour aller visiter ton chum ou un ami. Ça serait peut-être un bon super pouvoir à avoir aussi. Merci infiniment, Maude. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir parlé. Comme je l'ai dit, tu es mon amie, donc je le dis devant tout le monde, je t'adore, ma chère.
Merci, c'est réciproque pour moi aussi.
Merci beaucoup. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours avec nous. Comme à chaque fois, vous pouvez réécouter nos émissions sur le www.canalm.vuesetvoix.com ou sur toutes les plateformes de diffusion de balado, que ce soit Google Podcast, Apple Balado ou Spotify. Merci infiniment à toute mon équipe de radio, Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, la recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté pour l'habillage sonore. Et je vous dis à la semaine prochaine!